Bienvenue à la discussion. Alors, on parle beaucoup ces temps-ci d'un truc, ouais, qui inquiète pas mal de monde dans les communautés en ligne hébergées. On voit une baisse assez nette de l'engagement. Le signe le plus visible, bah, c'est qu'il y a moins de réponses aux publications qu'avant.
Le dissident.
C'est ça.
Et on ne sort pas ça de nulle part, hein. Ça s'appuie sur des données assez fraîches, ouais, collectées auprès de 27 communautés différentes, et puis aussi sur les analyses de Richard Millington de Feverbee, qui essaye de comprendre un peu d'où ça vient et ce que ça implique, quoi. Du coup, la grande question qui se pose, c'est est-ce que cette baisse, qui bon, semble s'être accélérée avec les récentes mises à jour de Google, est une sorte de coup de grâce pour ces communautés hébergées?
Ou alors, est-ce qu'on est juste dans une période de réajustement, une transformation, forcée par les nouvelles technos et les habitudes qui changent?
Le dissident. Alors, de mon côté, je vais plutôt défendre l'idée que cette chute, oui, nourrie par des trucs de fond comme l'IA générative qui répond à tout, les gens qui vont voir ailleurs. Et puis, l'impact de Google, bah, c'est un vrai gros défi. Ça remet en cause la solidité de pas mal de modèles de communauté. Et ça pourrait bien marquer la fin d'une époque dorée, franchement.
Et moi, à l'inverse, je vais argumenter que oui, bon, la baisse est réelle, on ne peut pas le nier. Et ça demande clairement de revoir nos stratégies. Mais les communautés hébergées, surtout celles qui sont là pour aider à résoudre des problèmes concrets, les transactionnels comme on dit, et puis celles qui créent du lien, un sentiment d'appartenance, les identitaires, eh bien, elles gardent une valeur essentielle, une raison d'être qui va leur permettre de tenir bon. Bon, commençons peut-être par les faits. Les chiffres, ils montrent une baisse du nombre de réponses, qui est une mesure clé, hein, de l'engagement, de ouais, 20% à 40% sur un an ces derniers mois. Et ça semble s'être accentué depuis les changements d'algorithme de Google en mars. Millington, il parle de trois vents contraires en fait, qui soufflent en même temps. Primo, les gens utilisent de plus en plus les grands modèles de langage, les fameux LLM, ces IA comme ChatGPT, pour avoir des réponses rapides. Deuxieux, pour des conseils d'experts, certains se tournent vers d'autres plateformes, peut-être plus spécialisées ou perçues comme plus directes. Et tertiaux, Google avec ses AI Overviews, qui commencent à afficher les réponses directement dans les résultats de recherche, ce qui incite moins à cliquer pour aller voir sur la communauté elle-même. Ça ressemble à une tempête parfaite, c'est vrai. Mais je ne crois pas que ça signe l'arrêt de mort de toutes les communautés. Prenons les communautés transactionnelles, celles de support client, de questions-réponses techniques. Bon, elles vont survivre. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours ce que j'appelle un socle de questions, trop pointu, trop spécifique au contexte de l'utilisateur, pour qu'un moteur de recherche ou même un LLM puisse y répondre correctement. L'expérience Google Zero, où une communauté avait été désindexée par erreur par Google, l'a un peu montré. Évidemment, sans le trafic de Google, l'activité a chuté et les tickets au support officiel ont grimpé en flèche. Mais il restait une activité de base dans la communauté, justement, pour ces cas complexes que seul un autre utilisateur expérimenté pouvait démêler, tu vois. Et pour les communautés identitaires, les groupes de pairs, les réseaux pros ou de passionnés, la menace est différente. Leur valeur ajoutée principale, ce n'est pas l'info brute qu'on trouve partout, non, c'est le lien, l'échange, le sentiment d'appartenance. Donc le trafic de recherche est moins vital pour elles. Alors oui, ce déclin nous touche surtout sur les métriques qu'on regardait jusqu'ici, ça nous force à être plus malins, mieux guider les utilisateurs depuis le support vers la communauté pour les bonnes questions, apprendre à mesurer la valeur différemment, et là, l'idée des déviations fantômes, les ghost deflections, elle est intéressante. En gros, c'est quand quelqu'un trouve sa réponse en lisant sur la communauté, sans même avoir besoin de poster. C'est une valeur énorme, ça, mais invisible dans les stats classiques. Il faut aussi peut-être transformer certaines communautés en sites de destination, des endroits où on vient pour des événements spécifiques, uniques, ou alors renforcer les liens dans des sous-groupes plus petits, plus ciblés. Ce sont des adaptations parfois profondes, oui, mais pas une disparition programmée.
Le dissident. Je vois bien le tableau que tu dresses, mais j'ai une lecture beaucoup plus. Ouais, plus sombre de la situation. Insistons sur les chiffres quand même, hein. 20 à 40% de baisse. Et ce, de manière assez générale, sur les communautés étudiées, hein, peu importe leur taille initiale. Ce n'est pas juste une petite correction, là, c'est une chute brutale.
Et cette tempête parfaite que tu décris avec les trois vents contraires, LLM, autre plateforme et Google. Je pense que son effet cumulé est dévastateur. Surtout l'impact de Google. Quand Google commence à siphonner les réponses via ses AI Overviews, il ne coupe pas juste un peu de trafic. Non, il brise la mécanique essentielle de découverte pour énormément de communautés. Avant, un utilisateur cherchait une solution, tombait sur un poste de la communauté, hop, il trouvait sa réponse, et potentiellement il restait, posait une autre question, voire aider quelqu'un d'autre. Cette boucle-là, elle est en train de se casser net. Mon argument central, c'est que ce déclin est une menace majeure, voire existentielle, pour une grande partie de l'écosystème, particulièrement pour celles qui vivaient grassement du trafic SEO, c'est-à-dire la plupart des communautés transactionnelles bien établies. Et aussi pour celles dont la proposition de valeur est directement concurrencée, comme les communautés d'intérêt général, je cherche des infos sur le jardinage, ce genre de truc, ou celles centrées sur un objectif précis, on s'entraide pour préparer un marathon. Tu parles du socle de questions complexes pour les communautés transactionnelles. Bon, admettons. Mais même si elles survivent grâce à ça, est-ce qu'elles retrouveront un jour leur niveau d'activité d'avant? Franchement, j'en doute fortement. Et cette baisse d'activité, elle n'est pas sans conséquences, attention. Quid des programmes de super utilisateurs qui récompensent l'activité? Quid de la gamification? Tout ça risque de tourner un peu à vide s'il n'y a plus la masse critique, non? Et pour les communautés d'intérêt ou celles axées sur un objectif, là c'est encore pire. Elles n'ont pas ce plancher de questions techniques irréplaçables pour amortir le choc. Genre, si l'activité baisse. Le risque, c'est la spirale mortelle. Moins d'activités visibles, moins de nouveaux arrivants, encore moins d'activités, et hop, la communauté se vide. Pour moi, ce n'est pas juste une adaptation, non. C'est un changement de paradigme brutal. Les jours de gloire, comme dit Millington, où il suffisait d'exister pour capter du trafic et de l'engagement via Google, ils sont probablement finis pour beaucoup. Les solutions que tu proposes, elles sont intelligentes sur le papier, oui, mais j'ai bien peur qu'elles ne soient que des pansements sur une jambe de bois face à des tendances aussi lourdes. Ok, 20-40%, c'est sérieux, je te l'accorde. Personne ne dit le contraire. Mais est-ce que ça veut dire menace existentielle pour toutes les communautés? C'est là que je diverge un peu. Reprenons l'exemple de Google Zero. Oui, l'activité a baissé, mais elle n'a pas disparu. Un noyau dur a persisté, centré sur ces fameuses questions complexes. Ça montre une forme de résilience, non, Jean? Plutôt qu'une crise fapale, moi je vois un changement majeur qui nous oblige à être plus stratégique, plus créative. T'as raison, on ne peut plus juste compter sur Google pour nous amener du monde passivement, c'est fini ça. Il faut repenser nos indicateurs. Mesurer ces ghost deflections, par exemple, c'est crucial. Si on arrive à montrer qu'un contenu de la communauté, même sans générer de réponse directe, a permis à X milliers de personnes de résoudre leurs problèmes et d'éviter d'appeler le support, on prouve une valeur énorme, même si le compteur de postes ne grimpe plus aussi vite. La valeur intrinsèque, elle est toujours là. On aide les gens sur des trucs pointus, on fait faire des économies indirectes au support. Et pour les communautés identitaires, je maintiens que la menace est moins directe. Leur carburant, c'est le lien, le partage d'expériences entre pairs, pas juste l'information brute que Google ou en LLM peuvent recracher comme ça. Le dissident.
Je comprends l'idée de la résilience, mais survivre avec une activité divisée par deux ou trois, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un succès? Ce scénario Google Zero, tu le présentes comme une expérience passée, mais pour beaucoup, ça risque d'être la nouvelle norme, en fait. Ce n'est pas juste une baisse de régime, c'est potentiellement une amputation d'une bonne partie du modèle économique et participatif. Et tu insistes sur les communautés transactionnelles et identitaires, mais quid des autres? Ces communautés d'intérêt, de projet, celles qui n'ont ni le socle technique, ni le lien identitaire très fort. Tu penses vraiment qu'elles vont s'en sortir si facilement?
Le risque de spirale mortelle que j'évoquais, il est particulièrement aigu pour elles, tu sais. Moins de trafic de découverte via la recherche, ça veut dire moins de sang neuf, moins de contenu frais posté par ces nouveaux arrivants. C'est un cercle vicieux. Se contenter de dire « les transactionnels vont survivre à minima » et les identitaires s'en sortent et passer sous silence le sort probable des autres, pour moi, ça ressemble plus à une crise du secteur qu'à une simple adaptation tactique. On risque de voir une consolidation massive ou la disparition pure et simple de nombreuses communautés. C'est vrai que le défi est plus grand pour les communautés d'intérêt, je te l'accorde. Mais là encore, je pense qu'on sous-estime peut-être le potentiel des solutions proposées. Prenons la redirection du trafic depuis le support client. Tu dis que c'est compliqué? Oui, ça demande de la coordination, c'est sûr. Mais l'exemple d'Okta cité par Millington montre que c'est faisable. Ils redirigent une partie de leurs demandes de support vers la communauté. Alors oui, Millington note que ça pourrait être mieux fait en étant plus explicite sur quel type de questions a sa place dans la communauté. Mais ça montre qu'il y a une marge de manœuvre, un levier concret pour amener du trafic qualifié. C'est une question de volonté et d'optimisation des processus, finalement. Ensuite, l'idée de transformer certaines communautés en sites de destination. Quand je parle d'événements uniques et engageants, je ne pense pas juste à un énième webinaire descendant, hein. Imagine des défis créatifs lancés à la communauté, des AMA, Ask Me Anything, avec des experts internes ou externes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, des partenariats avec des micro-influenceurs pertinents, des débats en direct sur des sujets chauds, des sessions show and tell où les membres partagent leurs réalisations, ou même partager vos galères pour dédramatiser l'échec. Le but, c'est de créer un rendez-vous, une raison spécifique de venir sur la plateforme, qui ne dépendent pas d'une recherche Google hasardeuse. Et pour les communautés axées sur un objectif, qui sont effectivement vulnérables, l'idée de les faire évoluer vers quelque chose de plus identitaire via des sous-groupes, chapitres locaux, groupes par secteur d'activité, par niveau d'expertise, c'est une piste intéressante. Le modèle de découvrabilité des groupes d'utilisateurs de Notion, par exemple, peut inspirer. Ce ne sont pas des solutions miracles, j'en conviens, mais ce sont des pistes proactives, des stratégies d'évolution, pas juste des réactions désespérées.
Le dissident... Ouais, je reste sceptique sur la généralisation et l'efficacité réelle de tout ça. Rediriger le flux de support, ça sonne bien, mais combien d'entreprises ont vraiment la culture et les outils pour le faire efficacement, sans juste créer une boucle de frustration pour l'utilisateur qui se sent baladé d'un service à l'autre. Quant à de réunir des sites de destination, honnêtement, organiser régulièrement des événements qui sont vraiment créatifs, uniques et qui attirent suffisamment de monde pour justifier l'effort, bah, c'est un sacré boulot. Ça demande des ressources dédiées, une vraie stratégie événementielle, une capacité d'animation hors pair. Toutes les équipes de community managers n'ont pas ça sous la main, soyons clairs.
Le risque, c'est de tomber dans le gadget ponctuel ou le truc répétitif qui lasse vite, quoi. Transformer une communauté d'intérêt en hub identitaire, pfiou! C'est un changement fondamental d'ADN, ça. Pas juste une réorganisation en sous-groupe. Ça demande du temps, une vision claire, et ça ne réussit pas à tous les coups. Et puis, il y a un point que Millington soulève et qui me semble crucial. La difficulté pour la plupart des boîtes d'adopter une approche community everywhere. C'est-à-dire d'aller interagir avec leurs membres là où ils sont déjà, Discord, Slack, Reddit. Si même cette approche, potentiellement plus agile, est compliquée à mettre en œuvre, pourquoi est-ce que les adaptations que tu proposes pour les plateformes hébergées, qui demandent de ramener les gens vers soi, seraient plus simples ou plus efficaces face à la force de frappe des LLM et des grandes plateformes sociales? D'ailleurs, le fait que Millington mentionne que les fournisseurs de plateformes communautaires qui facturent à la visite pourraient souffrir, c'est un signe que le modèle économique lui-même est fragilisé, non? Pas juste une métrique d'engagement. Revenons spécifiquement aux communautés transactionnelles, parce que c'est souvent le cœur du réacteur pour beaucoup d'entreprises. Tu sembles dire que, même si elles survivent, leur valeur diminue à cause de la baisse d'activité visible. Je pense que c'est une erreur de lier directement la valeur à cette métrique brute. Je maintiens qu'il y aura toujours un besoin pour des réponses humaines, peer-to-peer, sur des problèmes complexes, des cas d'usage tordus, des bugs émergents, des questions qui demandent du contexte, de la nuance. Les LLM sont forts pour synthétiser l'existant, oui, mais moins pour l'inédit ou le très spécifique. La valeur délivrée par la communauté, cette capacité à résoudre le pointu, à rassurer un utilisateur bloqué, à faire remonter des feedbacks précis, et oui, à faire économiser du temps au support via ces fameuses ghost deflections, cette valeur-là reste immense. Elle ne disparaît pas parce qu'il y a moins de réponses postées. Ça nous oblige juste, et tu as raison sur ce point, à mieux la mesurer et à mieux la communiquer en interne. On doit passer d'une obsession du volume d'interaction à une focalisation sur l'impact qualitatif et les économies réelles générées. Les programmes de super-utilisateurs, ils devront peut-être évoluer, oui, peut-être moins récompenser la quantité de réponses et plus la qualité, la pertinence, l'aide apportée sur des sujets difficiles. Mais leur rôle de pilier de la communauté d'experts reconnus ne disparaît pas pour autant.
Le dissident. Je ne nie pas qu'un certain besoin qualitatif persistera.
Mais je reviens à mon point principal, l'échelle. Ces communautés, pour la plupart, ne retrouveront probablement jamais leur niveau d'activité d'avant. Et cette réduction d'échelle, elle n'est pas anodine. Elle a un impact sur la perception de vitalité. Une communauté où il y a peu de messages récents, ça n'attire pas, ça peut même faire fuir. Elle a un impact sur la capacité à maintenir des programmes qui, qu'on le veuille ou non, reposent souvent sur une certaine masse critique pour être rentable ou simplement visible, super-users, gamification. Elle a un impact sur la valeur perçue globalement, à la fois par les utilisateurs, est-ce que ça vaut le coup de poser ma question ici, et par l'organisation, est-ce que cet investissement est toujours pertinent. Dites que la valeur intrinsèque reste la même et qu'il suffit de changer les indicateurs,
C'est peut-être un peu trop facile face à une baisse potentiellement drastique de la participation visible et de l'attractivité générale. C'est cette question d'échelle et ses conséquences en chaîne qui me font craindre pour l'avenir de ce modèle de communauté hébergée tel qu'on l'a connu. Bon, pour résumer où je me situe, je vois bien la baisse d'engagement visible et je suis d'accord que les facteurs externes, Google en tête, mais aussi les LLM jouent un rôle majeur. Mais je reste convaincue que l'adaptation est non seulement possible, mais déjà en cours. En développant de nouvelles façons de mesurer la valeur, comme les ghost deflections, oui, en étant plus proactif sur la manière dont on amène les gens vers la communauté ou dont on crée des rendez-vous incontournables, et en capitalisant sur ce que les communautés font de mieux, résoudre le complexe pour les transactionnels, créer du lien pour les identitaires, on peut traverser cette période. Le besoin fondamental pour ces types d'interactions ne disparaît pas, la forme change, les métriques doivent évoluer, mais la pertinence demeure. Le dissident. Et pour ma part, je conclus en disant ceci. Oui, les communautés hébergées ne vont pas s'évaporer demain matin, mais il ne faut pas sous-estimer la violence du choc actuel, ni la nature profonde des défis. IA, plateforme, Google, certains types de communautés, intérêts, objectifs sont clairement sur la sellette. Et même celles qui survivront, comme les transactionnels, le feront probablement à une échelle d'activité bien moindre qu'auparavant, avec tout ce que ça implique. Les jours de gloire de l'engagement facile drivé par le SEO sont vraisemblablement derrière nous pour une bonne partie du paysage. L'adaptation nécessaire sera sans doute plus coûteuse, plus complexe et demandera peut-être des changements plus radicaux, voire un abandon de certaines plateformes hébergées au profit d'autres modèles que ce qu'on veut bien admettre aujourd'hui. Clairement, on est au milieu d'une transformation majeure du paysage communautaire en ligne. Ça, c'est indéniable.
Le dissident, absolument. Et comprendre ces différentes lectures de la situation, est-ce une adaptation ou une crise? Les solutions sont-elles suffisantes? C'est vital pour tous ceux qui pilotent ou dépendent d'une communauté.
Il n'y a pas de réponse simple. Et creuser davantage les données et les analyses comme celle de Millington est sans doute la meilleure chose à faire pour y voir plus clair.